André Saglio, le suicide du monde. Plus que 1000 ans, la Terre décrivait lentement une ellipse très longue autour du Soleil rouge. Elle s'était aplatie jusqu'à prendre la forme d'une monstrueuse lentille de neige, et son équateur en avait craqué en gouffre circulaire. Bouche sombre et fumeuse qui béait vers les suprêmes rayons de chaleur et de lumière. C'est dans la tiédeur de ce trou que s'était réfugiée la vie. Or, il ne reste de vivant que des plantes rabougries, que des bêtes velues, et des hommes plus nombreux que celles-ci et que les plantes, car ils savaient mieux su se défendre contre l'invasion mortelle du froid. Ils avaient creusé le roc de galeries profondes. Ils s'approchaient du centre bouillonnant encore. Et les industries leur avaient permis de façonner des machines qui pouvaient leur faire suivre dans sa marche tournante la clarté du jour. Ces derniers hommes avaient en effet une grande science. Ils avaient amassé toutes les découvertes de innombrables générations qui les avaient précédés, ils en étaient arrivés à simplifier l'effort physique jusqu'à un point infime. La nourriture même n'exigeait point la peine d'une chasse quotidienne, car depuis longtemps on était parvenu à tirer de l'air et de ses minéraux des principes nécessaires à l'existence et à des minéralisés. Les maladies étaient toutes prévenues ou immédiatement guéries, et chacun était assuré de s'éteindre doucement à un âge très reculé par la seule usure de ses organes. L'intelligence n'avait trouvé de bornes immuables lorsqu'elle avait recherché la cause et la raison de la vie. En cela, elle était demeurée au point où l'on fut toujours quand on essaya de discerner une base de vérité absolue dans les affirmations séduisantes des religions. Tout se réduisait à la constatation de l'universel mouvement et à la déduction logique que d'une impulsion première, mais la figuration de cette impulsion première, son origine et son terme échappaient aux efforts du cerveau qui s'emplissait de ténèbres dès qu'il en abordait le problème. Les hommes de la terre mourante n'étaient donc pas heureux, malgré leur insouci des besoins matériels et leur sécurité contre la souffrance corporelle, car ils avaient plus de loisirs de penser que les hommes d'autrefois. Distraits par la lutte de chaque jour, et toutes leurs pensées aboutissaient à une éternelle interrogation qui restait sans réponse. Dès que les enfants arrivaient à l'âge de réfléchir, un pli grave se dessinait sur leur front et ne les quittait plus. Les mots rire, joie, espérance étaient inusités, comme appartenant à une époque antique et naïve. Beaucoup de gens avaient renoncé à sortir dans la vallée car leur tristesse devenait plus âpre à la vue du soleil s'inclinant dans la brume rose du ciel, vous ne s'éteignez jamais plus les poudroiements des étoiles. Ceux-là préféraient se confiner dans les pièces souterraines, où l'on avait accumulé les débris des civilisations anciennes, et ils essayaient de vivre en imagination les temps passés avec l'obstination du vieillard qui rappelle sa jeunesse. Pourtant, ils ne s'accoutumaient point à rencontrer dans les livres jadis jaunis ou sur les fragments sculptés des temples d'archaïques invocations, un Dieu juste, bon et sage. Quand eux-mêmes ou tout autre de leurs frères de la tribu des hommes étaient obligés de faire allusion à l'impeccable et l'inexplicable force-principe, ils employaient un mot qui contenait le triple sens de souffle, aveuglement et folie. Mais chacun évitait cette expression lugubre qu'éveillait la haine en évoquant des milliers de siècles de souffrances et d'éclatants écroulements et de fatals écroulements. Dans le monde sans besoin matériel, il n'y avait ni riches ni pauvres. Tous avaient le même droit à se servir des choses nécessaires, des machines qui évitaient la fatigue, de la nourriture amassée au lieu public, des bibliothèques et des musées. Par tradition, ceux qui avaient la plus longue expérience surveillaient l'ordre de toutes les institutions qui maintenaient la vie et prescrivaient aux jeunes hommes de courts labeurs utiles à la communauté. Parmi les vieillards, il y en était un qui avait pénétré plus encore que les autres dans les connaissances du passé. Il s'appelait Urgazalan. Sa figure glabre semblait de cire. Sur son front ridé, de réflexion mélancolique qui marquait tous les hommes, était profonde comme une blessure. Ses yeux, couleur d'eau, ne reflétaient point rien des choses passagères. Il vivait avec sa descendance nombreuse dans un souterrain qui avait la vue sur un point de la vallée par une grande ouverture close d'un cristal. Depuis longtemps, il ne se déplaçait plus, comme beaucoup de gens âgés, pour suivre la lumière filtrante du soleil. Mais enfoui au milieu de fourrures, il restait constamment tourné vers l'infini, alternativement noir et vermeil, dans une contemplation silencieuse. Parfois, cependant, les siens voyaient ses lèvres remuer, comme s'il se disait à lui-même quelque chose, et son doigt tracé sur son genou d'invisibles chiffres. Or, un matin, comme le prodigieux astre de fer surgissait, Ugazalan vit à la crête de la muraille, à pic qui fermait la vallée devant lui, un long scintillement sanglant, une miraculeuse frange de rubis qui couvrait la plaine des rochers aussi loin que le regard pouvait aller. Il comprit que c'était la glace qui atteignait enfin, dans son impalpable marche de destruction, le dernier refuge de l'humanité, et un cri s'échappa de sa poitrine. car ses calculs avaient mesuré exactement le temps très court qui s'écoulerait entre la venue de ce signe et l'extinction complète de la vie. Plus que 1000 ans! Le son courut par les galeries, rebondit des parois, si tragique que tous ceux qui l'entendirent accoururent. Mais ils ne lurent rien sur la vieille figure vieille du vieillard, immobilisé déjà, et n'aperçurent point la flamme allumée derrière les yeux sans couleur. Le murmure de la foule emplissant la chambre sembla seul tirer le vieillard de ses rêveries. Il contempla longuement les hommes, les femmes et leurs petits-enfants. Il soupira profondément, puis il commanda qu'on allât chercher 10 hommes âgés, réputés comme les plus sages, savants, et aussi 10 hommes jeunes, parmi ceux qui récemment avaient fondé de nouvelles familles. Vers l'heure de midi, l'un après l'autre, ils entrèrent tous les 20, s'inclinèrent silencieusement devant le maître et s'assirent en demi-cercle, on eût dit 20 frères, dont le sentiment de l'inutilité de prévoir avait figé leur visage pour une similitude identique, ou plutôt 20 portraits d'un seul homme taillé dans la pierre aux différents âges de sa vie. Quand les portes eurent été closes, Orgusanan parla. Il évoqua, en paroles magnifiques et brèves, la formation de ce monde, gaz embrasé dans l'incompréhensible rien. Il dit la lente solidification de la sphère, l'apparition de la vie, la naissance de l'intelligence, dans une nervure de bête accidentellement épanouie en cerveau, il parcourut la prolute des myriades de générations pour durer, puis pour agrandir parcelle à parcelle le domaine de la pensée. Il montra les victoires qui, enorgueillissant les hommes, les avaient affolés de l'illusion d'être les instruments directs d'une divinité de justice et de bonté, pendant qu'en dépit de leur progrès, la terre commençait à mourir. Et la voix continuait, brûlante de haine. « Homme, je m'adresse en vous à l'humanité tout entière. La glace nous gagne. Aujourd'hui, elle touche à notre trou. Demain, elle y entrera. Et dans 10 siècles exactement, la dernière palpitation de la vie s'étendra, étendra son linceul vitreux. Homme, laisserons-nous l'œuvre humaine disparaître, ainsi sans nous révolter contre l'aveugle force qui nous a fait surgir? Laisserons-nous le monde retomber dans le néant par une torture plus courte mais plus effroyable que celle qui fut l'enfantement même de l'intelligence? N'aurons-nous pas même une malédiction digne du génie créé par notre race contre ce jeu dément qui produisit la terre et son peuple, qui tue celui-là au moment même où il est arrivé à la perfection? Nous sommes unis comme des frères. Nous avons fait disparaître la souffrance physique. Nos descendants pourraient vivre dans une douce existence grâce à l'expérience laborieuse de leurs ancêtres, sans souci même de la mort, puisqu'ils se verraient revivre en des enfants destinés à jouir comme eux des belles et bonnes choses qui nous sont connues. Et c'est à ce point-là, culminant, qu'il faut accepter que l'intelligence humaine sombre par la douleur du corps jusqu'à n'être plus dans le cerveau que de certains hommes des derniers, dans 1000 ans, que la lueur d'instinct de la bête fauve hurlant devant la mort et venant enfin s'abattre en râlant sur les débris de la civilisation, dans le noir et dans la glace. Non, non, révoltons-nous, hommes de la terre, trompons les choses monstrueuses sans yeux et sans oreilles. Et puisque nous ne pouvons rien contre l'anéantissement, volons-lui au moins 10 siècles de souffrance. Que l'humanité périsse d'un coup dans une apothéose, et que cette vieille terre, qui eut toute la gloire de voir surgir l'âme dans la matière, s'effondre avec nous, au lieu de continuer à tournoyer encore des milliers d'années dans l'infini, planète désolée et morte, épave du monde. Il continua longtemps encore à clamer terriblement, jusqu'au moment où le rouge soleil, déclinant, échancra son disque au bord de la montagne, et les 20 hommes, debout, gagnés par son émotion grandiose, criaient avec lui des anathèmes et gémissaient, les bras tendus vers l'immensité, comme un cœur répondant au chant de la mort. Trompons le souffle, changeons la loi, que l'homme ait enfin sa revanche. Dites-nous, maître, ce qu'il faut faire. Dites-nous votre pensée, maître. Alors le grand vieillard, d'un geste, les serra autour de lui et baissant la voix jusqu'à être à peine perceptible, comme s'il eût redouté une invisible puissance rôdeuse, il expliqua son formidable plan, et des points, sagement, distants, fouir le sol de la vallée où cerclait la terre, pénétrer jusqu'au feu et le faire jaillir en sources ardentes qui rendraient au monde sa lumière et sa chaleur oubliée depuis longtemps, jusqu'à ce que les points flancs nourriciers fussent vides. Mais avant cet épuisement fatal, à un moment dont lui seul, Orgozanan, serait le juge, la terre disparaîtrait d'un coup. Il était inutile qu'il expliquât son moyen, l'anéantissement. Il jurait serait aussi prompt que le battement des paupières, et si complet que la poussière du chemin devrait paraître grossière à côté de la vapeur qui marquerait un instant la place du monde. Ce fut comme une folie d'activité qui secoua l'humanité, figée depuis des siècles dans la morne attente de l'inévitable fin. Par toutes les galeries souterraines, des êtres s'affairaient, fourmillaient, si denses qu'on eût cru subitement que l'espèce avait décuplé. Une rumeur énorme de voix grondait à travers le labyrinthe des voûtes inondées de lumière électrique et se mêlait au fracas des machines roulantes et frappant. Des portes ouvertes aux terriers, au flanc de la vallée, ruisselaient sans interruption des files de travailleurs. Et tout le jour, les faibles, les femmes, les enfants, les vieillards s'accrochaient en étage aux pentes rocheuses comme un ventre li de lichen pour voir progresser davantage l'ouvrage libérateur. Cependant, en effet, six colossales foreuses montaient vers le ciel devant la brume vermeille de leurs aiguillons d'acier. Puis elles se mirent à vibrer avec des halètements rythmés, défonçant l'argile, pulvérisant le gravier et dispersant autour d'eux leur base des cascades de débris qui s'amoncelaient en cratères. Enfin, un matin, presque en même temps, elles touchèrent le globe liquide de feu qui formait le cœur de la planète, et la lave se précipita dans les puits avec la clameur d'une troupe de bêtes, fit sauter jusqu'aux glaces lointaines les carcasses des machines et gicla en l'air, blanche et éclatante. Si éclatante que l'on ne vit plus le soleil et que le ciel sembla se décolorer. Des jets dépassèrent les montagnes, puis leur fête s'élargit en parasol et commença à retomber en grosses gouttes qui s'écrasaient sur le sol avec un bruit mou, un épanouissement d'étincelles. Et six lacs bouillonnants se formèrent en quelques heures, s'allongèrent au fond de la vallée et s'écoulèrent les uns vers les autres en fleuves bombés qui se joignirent. Ce soir-là, pour la première fois depuis l'origine du monde, il n'y eut point de nuit pour l'humanité. La lumière et la chaleur étaient insoutenables près des fontaines de feu. Mais en s'en éloignant, on pouvait goûter successivement l'ardeur des midis tropicaux qui furent à l'âge moyen de la Terre, ou la molle douceur des méditerranéennes, ou plus loin encore, juste au milieu de deux volcans, la subtile sensation d'un crépuscule de printemps dans le pays oublié où la Seine passait lourde d'îles fleuries. Et ce furent ces régions charmantes et poétiques que beaucoup préférèrent. Les jeunes gens y venaient deux par deux, s'abandonnaient à la joie du présent, heureux du silence de leurs pas sur le tapis de gazon qui magiquement s'était remis à virevolter. Mille ruisselets d'eau descendirent en chantant des murailles rocheuses où reculait la glace. La sève monta au vieux troncs noirs, et les parades de bourgeons ainsi que de pierreries violettes et roses, et de menus animaux engourdis dans des crevasses apparurent. Rien ne fut plus admirable que cette immense journée qui n'en finissait point, où tout renaissait exquisement et violemment. Quand les couples étaient là, ils s'étendaient ou les avaient menés leur course sans but, dans le parfum des jeunes plantes, et s'endormaient les mains jointes. Près d'eux, ignorant la crainte, les oiseaux blottissaient leurs têtes menues dans leurs plumes ébouriffées, et les insectes s'immobilisaient au calice des fleurs dans la mollesse du pollen. Nul ne songeait plus que cette minute d'or, d'éternité, du finir. Nul, sauf le vieil Rubusalam, dans le même temps que les machines fouillaient les corps usés de la terre, il s'était enfermé avec ses livres des âges passés, qui renfermait le secret d'inventions chimiques si destructives que d'un commun accord les hommes avaient un jour renoncé aux guerres pour sauver la race. Mais les formules de ces matières foudroyantes, si compliquées qu'elles fussent, étaient enfantines encore pour un cerveau qui rassemblait la science de l'humanité tout entière. Quand avait apparu le panache rayonnant du puits le plus voisin de sa demeure, Orgusalam avait trouvé une combinaison possible et la plus effroyable qu'on eût jamais rêvée. Et il avait entendu les cris d'allégresse de ces êtres répandus dans la vallée, tandis qu'ils recueillaient, cristallisés aux parois des corps nus, une poudre si légère et d'une nuance si précieuse qu'on eût dit la dépouille des ailes de papillon. Il en eut assez pour remplir une petite cassette, et c'était plus qu'il n'en fallait. Il scella le couvercle, en fit descendre au fond le plus souterrain des galeries désertées par les hommes, qui la reliait à sa chambre, et ce fil, terminé par une minuscule machine brillante qui avait l'apparence dans le coin du plancher où il la laissa, d'une boule d'or abandonnée après un jeu. Toc! Alors, tout étant prêt, le vieillard reprit sa place coutumière en face de la baie ronde dont il brisa le cristal. Et l'arôme des fleurs, mêlé au tintement des rires dans l'air tiède, l'enveloppa de caresses. Mais son âme était rigide comme son visage. Il parcourait en pensée l'immensité et devinait les univers d'étoiles, cheminant inlassablement en cercle, se succédant les uns aux autres, selon l'inexplicable impulsion du souffle aveugle. Son esprit se représentait sans bornes les foyers s'allumant, rayonnant un moment et s'éteignant par une agonie semblable à celle de la terre. La haine l'emplissait énorme, Il eût voulu que le principe moteur du jeu atroce des choses puisse peindre à son imagination avec la forme tangible que lui donnaient les naïfs croyants d'autrefois pour supposer la contraction furieuse de sa face lorsque l'humanité, violant la loi de malheur, échapperait d'un seul coup à la progressive étreinte de ses griffes glacées. Il en arrivait à trouver cette vengeance, même infime, de tuer la terre avant son heure. Il eût voulu anéantir tout ce qui était mouvement dans l'éternité. Il y aurait eu 82 jours que la vie avait été rendue à la vallée terrestre, quand Orgouzalam, après un assoupissement de quelques heures, fut réveillé par un gazouillement frais et charmant. Il regarda devant lui et il aperçut, sur la mousse parfumée de violettes, un enfant nu, le dernier de ses arrière-petits-enfants, qui agitait ses membres roses en incertains efforts, tout joyeux de se sentir vivre. Et tandis que le vieillard considérait, il eut soudain l'impression qu'un léger voile subitement descendait sur le monde. Il leva les yeux et vit que la torche de feu à l'extrémité de la gorge verdoyante avait cessé d'atteindre le niveau des hautes murailles. Les entrailles de la terre étaient épuisées et la lave commençait à baisser. Nul que lui, sans doute, ne s'en était encore aperçu. Il fallait agir avant que l'angoisse n'entrât au cœur des hommes. Ouazalam se leva, mais tout à coup, une pensée traversa son esprit, qui éclaira son visage d'une lueur surhumaine et triomphale. Il prit le petit être souriant, tendit vers le ciel le bout de ses bras, comme pour faire mieux voir à l'inconnu la raillerie immense de son geste, sans force. Puis il le posa sur le plancher de la chambre, très doucement, et regarda sur ses belotes tendres, sur ses genoux, le petit errat trébucha. La boule d'or attira son regard. Il s'en approcha avec des cris et des rires, étendit ses doigts tremblants, perdit l'équilibre et s'abattit de tout son faible poids sur le jouet. Une poussière d'étincelles fleurit d'un instant dans l'immensité, puis s'éteignit, et l'œil sanglant du soleil chercha vainement le monde.